Hello tout le monde, j'ai un cadeau pour vous. On a construit un toolkit que vous pourrez envoyer à vos managers pour qu'ils se forment tout seuls au management et qu'ils gagnent en autonomie. Concrètement, c'est une version do it yourself de notre programme de formation au leadership. On a pris notre formation, on en a fait une version écrite sur Notion, une version vidéo avec plus de 9 heures de bonnes pratiques managériales et même une version podcast pour devenir super fort en management en faisant son running. Beaucoup de gens vendent ce genre de trucs, nous on pense que ça doit être gratuit. Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co/bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
L'information, elle est à disposition du salarié, mais si côté employeur, vous voulez être sûr d'avoir respecté votre obligation légale, en fait, il faut avoir la preuve de la remise de cette information.
Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki. La bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne, comment vas-tu ?
Bonjour Alexis, je vais très bien, merci et merci pour ton invitation.
Bah merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance comme d'habitude et moi je passe un bon petit break dans mon après-midi pour échanger avec Anne. Si vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez un peu de quoi on va parler, mais peut-être ne connaissez-vous pas Anne aussi bien que ça, donc je te laisse te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas.
Ouais, ok. Bien, moi, je suis avocate. Mon domaine d'expertise, c'est le droit du travail et je fais du conseil. Mon activité est assez spécifique. Je fais du conseil aux entreprises dans le secteur de la tech, du numérique et du conseil. Et pour rentrer sur le volet technique, en fait, ce sont les entreprises qui sont soumises à la convention collective qu'on appelle la convention Syntec. Qui s'appelle en réalité la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, c'est la convention collective BETIC. Et oui, je sais, c'est un peu compliqué.
Je suis en train de découvrir aujourd'hui qu'effectivement, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière Syntec, mais ça fait sens.
Mais oui, je sais. Alors, je sais qu'il suffit de prononcer le mot Syntec pour que tout le monde comprenne. Sauf que Syntec, ça n'est qu'une fédération, une des deux fédérations qui a signé la convention collective. Et en général, l'autre fédération, qui est la fédération Synov, est pas très contente quand on se contente de parler de la fédération Syntec. Donc, soit je parle de la Syntec Synov, soit de la convention BETIC. Comme ça, je respecte tous les signataires de cette convention collective.
Et donc aujourd'hui, on va parler de c'est notre grand chapitre qu'on pourrait appeler ou en tout cas notre grande saga qu'on pourrait appeler les sujets juridiques que peut-être vous ne maîtrisez pas mais que ça serait bien d'avoir en tête parce que les tout débordements pourraient causer problème et on va l'appeler donc les quatre obligations sous-cotées en droit du travail en 2024 qui s'appliquent dès le premier salarié.
Ouais, exactement. En fait, en échangeant avec toi, je me suis rendu compte qu'il y avait certains sujets qui revenaient très souvent avec mes clients et que moi-même, je ne comprenais pas très bien, en fait, parce que bon, moi, je suis juriste de formation et il y a un certain nombre de sujets pour moi qui sont assez basiques et certains sont très bien appliqués dans les entreprises, d'autres pas. Et j'ai échangé avec des confrères autour de moi ou des consultants RH et effectivement, il y a des sujets qui sont plutôt mal appliqués et ben, parfois, ça peut c'est cher quand même, il y a des sanctions derrière, donc je pense que c'est pas mal de le rappeler, surtout qu'il y a une actualité juridique sur certains de ces sujets qui fait que c'est l'occasion d'en reparler, notamment les informations qui sont à fournir à l'embauche au moment de la signature du contrat de travail.
Eh bien, on va en parler. Donc, petit rappel du cadre, petit rappel déjà des personnages autour de la table. Je suis absolument analphabète d'un point de vue juridique et légal. Donc, moi, je représenterai aujourd'hui le naïf, celui qui n'y connaît rien et donc celui qui, de bonne foi, peut très probablement faire des erreurs et ne pas être dans les clous de ce que le Code du travail et la loi, j'allais dire recommande, non, pas ne recommande, précise qu'on doit faire. Donc, il n'y a absolument aucun jugement de notre part en disant vous l'avez pas fait, c'est pas bien, c'est plutôt de mettre en évidence des sujets qu'on imagine que vous n'avez pas en tête, mais que pour autant il faut faire. Et tu disais, on va commencer par les informations à fournir à l'embauche, la première obligation du droit du travail dès le premier salarié.
Ouais, exactement. Et effectivement, je confirme, il n'y a pas de jugement. Et surtout, si jamais vous ne le faites pas, ben sachez que vous n'êtes pas les seuls à ne pas le faire. Évidemment, je ne donnerai pas de nom. Oui, alors là, on a une actualité assez récente, puisque ça a un petit peu changé depuis le 1er novembre 2023. Et l'employeur doit communiquer depuis cette date-là un certain nombre d'informations aux salariés au moment de l'embauche et de manière obligatoire. Alors jusqu'ici, ça se faisait dans les usages, hein, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui font un contrat de travail écrit. Hein. Ce n'était pas obligatoire jusqu'à il y a peu de temps, en fait. Quand un CDI à temps complet, on n'avait pas l'obligation de faire un contrat de travail écrit. Ça a changé assez récemment et aujourd'hui, on doit mettre dans ce contrat, que ce soit un CDI ou un CDD, un certain nombre d'informations. Alors, on peut croire que ce sont déjà celles qu'on donne. Et effectivement, dans certains cas, c'est le cas. Dans les contrats de travail habituels et avec les trames qu'on a déjà, mais c'est pas toujours le cas. Alors, ça se répartit en deux catégories. Il y a aussi un délai que le Code du travail nous donne. On a un premier délai qui est celui de 7 jours. Ça veut dire qu'il faut donner un certain nombre d'informations aux salariés dans les 7 jours de son entrée en poste et d'autres informations qui doivent se faire un petit peu plus tard et qui doivent se faire dans un délai d'un mois à partir de son arrivée dans l'entreprise. Le délai de 7 jours, c'est des informations plutôt classiques. Ça va être l'identification de l'employeur, l'identification du salarié, nom, adresse, etc. Le lieu de travail, l'intitulé du poste avec la définition des fonctions, la classification. En général, c'est une classification qui est prévue par la convention collective. La date d'embauche. Si elle existe, la période d'essai et surtout ses modalités, à savoir durée, renouvellement, conditions de renouvellement, conditions du terme de la période d'essai, rémunération. Et alors là, le Code du travail nous demande de fixer tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire fixe, le salaire variable, les avantages en nature s'ils existent. Hein, les avantages en nature, ça peut être par exemple un véhicule de fonction. Et les modalités de versement, ça c'est pas, on n'est pas forcément dans les contrats de travail classiques. Et puis les modalités de la durée du travail, avec éventuellement les modalités sur les heures supplémentaires si elles existent. Et là c'est pareil, la durée du travail, on rentre pas forcément dans le détail. Ça peut être 35 heures si on fait 35 heures, ça peut être un forfait si on fait un forfait, mais il faut peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail que ce qui est prévu par nos contrats de travail habituels. Je rentre pas peut-être plus dans le détail technique, mais il y a d'autres dispositions spécifiques pour les CDD, pour le temps partiel, pour les salariés qui travaillent à l'étranger. Donc, on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là, mais je le dis. Et puis, on a les autres informations qui doivent, elles, être fournies dans le délai d'un mois. Et là, ça y est pas toujours hein, dans nos contrats de travail habituels. On a, par exemple, les droits en matière de formation. Ça, c'est pas une clause que je vois très souvent dans les contrats. On a la durée des congés payés et les modalités de prise des congés payés, la procédure à respecter en cas de rupture du contrat de travail, la convention collective qui s'applique. Donc, par exemple, moi, dans mon cas avec mes clients, c'est la convention collective Syntex-Innov. Éventuellement, les accords d'entreprise, ça c'est pareil, c'est pas toujours dans les contrats ou dans les documents qu'on remet aux salariés. Les accords d'entreprise sur tous les sujets, la durée du travail, le régime de protection sociale, ça doit être fourni comme info. Et enfin, les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, donc protection sociale, mutuelle, retraite complémentaire, etc. Pour ce qui est des modalités de la remise de l'information, j'ai parlé du contrat de travail au sens général, mais en fait, comme ce sont des informations qu'on doit fournir aux salariés, l'idée, c'est pas forcément de les mettre dans un contrat de travail qui est un document contractuel dans lequel on reçoit l'accord de l'employeur et du salarié sur des modalités de travail. Là, on est dans le domaine de l'information. Donc, s'il y a une partie de ces informations qui sont dans le contrat, c'est parfait. On respecte nos obligations légales, mais ensuite, on peut fournir les infos si on l'a pas fait ou pour les contrats de travail qui sont déjà en cours, par exemple, on peut fonctionner différemment. Et là, le code nous dit que ça peut se faire soit au format papier, Mais ça peut être aussi, ça peut être donc contrat évidemment, mais ça peut être là un courrier qu'on remet au salarié, un courrier qu'on lui envoie, et au format électronique. Mais alors là, il faut que ce soit encadré. Donc très concrètement, c'est une signature électronique, un accusé réception, et c'est là qu'il faut être un petit peu vigilant, parce que souvent, on a une partie des infos dans le contrat de travail, puis pour le reste, en fait, toutes les infos, elles sont dans un Notion auquel les salariés ont accès, ou un autre système. Donc l'information, elle est à disposition du salarié, mais si côté employeur, vous voulez être sûr d'avoir respecté votre obligation légale, en fait, il faut avoir la preuve de la remise de cette information. Donc, il faudrait, si vous avez ces systèmes-là où une partie des infos sont à disposition, il faudrait quand même sécuriser en ayant la preuve de la communication des informations aux salariés. Donc, il y a peut-être, il y a peut-être des petites choses en plus à mettre en place. Et le Code du travail nous donne une petite souplesse. Moi, très honnêtement, je la trouve pas terrible, mais bon, il faut savoir qu'on peut l'utiliser. C'est-à-dire que pour certaines informations, en fait, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail de l'information. On peut se contenter de faire un renvoi aux dispositions légales. Très concrètement, ça va donner quoi ? Ça va donner, dans un contrat de travail, on peut le faire par exemple pour le droit à la formation. Donc on peut dire, Madame ou Monsieur X pourra bénéficier d'un droit à la formation dans les conditions prévues par les articles. Pour le droit à la formation, en l'occurrence, c'est L6321-1 et suivant du Code du travail. Donc là, on déteste, évidemment, parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Donc moi, je ne le conseille pas. Je pense que c'est mieux pour le salarié comme pour l'employeur de savoir très concrètement de quoi on parle. Mais il faut savoir qu'on peut se contenter d'une référence aux dispositions légales. Parce que c'est vrai aussi que les dispositions légales, elles peuvent évoluer. Donc ce n'est pas toujours évident de donner des infos sur le droit à la formation. De manière permanente, quoi. Mais voilà, il faut savoir que sur certaines infos, on peut fonctionner comme ça.
Donc, vas-y. Hein.
Donc voilà pour ce qui est des infos. Je sais que mes clients, voilà, ils pensent souvent qu'ils les donnent déjà toutes, mais moi, je les invite quand même vraiment à auditer leur contrat et leur fonctionnement sur toutes ces infos, parce que bon, alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas très gravement sanctionné, hein, le fait de pas fournir toutes les infos aux salariés, puisque il n'y a pas de sanction directe, en fait. Aujourd'hui, le Code du travail nous dit, si le salarié n'a pas reçu toutes les infos, en fait, à lui de faire la démarche d'aller demander à son employeur de les lui donner, de le mettre en demeure de donner les infos, et c'est seulement si l'employeur ne le fait pas que le salarié pourrait, en théorie, aller saisir la justice pour se faire indemniser du préjudice subi du fait de ne pas avoir obtenu ces informations. Aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, quel est le préjudice subi d'un salarié quand il n'a pas reçu certaines informations. Mais on pourrait imaginer, par exemple, pour le droit à la formation, s'il savait pas qu'il pouvait y avoir accès, qu'il a subi un préjudice professionnel, un préjudice de carrière, c'est théorique, mais c'est possible. Donc voilà, je pense que modifier un petit peu vos contrats, rajouter une petite signature électronique, c'est pas compliqué, c'est presque gratuit et ça peut protéger. Donc voilà, j'invite vivement les auditeurs à faire un petit audit de leur pratique à ce niveau-là.
Ok, et c'est quoi la bonne redirection, je dirais, pour quelqu'un qui se dit « Ok, il y a des bonnes chances que mes contrats de travail ne soient pas aux normes, au vu de ce que je viens d'entendre, et j'aimerais soit trouver un template quelque part, soit une petite checklist, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de faire son running en même temps qu'il nous écoute, donc elle n'a pas pu prendre des notes de tout ce que tu viens de dire, même si je vous renvoie à l'article qu'on fait à partir de ce podcast. Il y a un endroit dans lequel on peut trouver soit un template soit une checklist qui nous permet de rien oublier.
Oui, j'ai fait un post LinkedIn sur le sujet où j'ai synthétisé toutes les infos à fournir. Il y a aussi les références du texte légal et après sur les modèles de les templates. Il doit en exister, mais je pense qu'il n'y a pas de template unique. C'est vraiment à faire en fonction de l'activité et du profil de la boîte, parce que il faut trouver le meilleur moyen de fournir les infos. Certains aiment le faire dans les contrats de travail, d'autres pas. Moi, j'ai modifié mes templates où j'ai un contrat de travail, on va dire, assez minimal. Et pour les petites boîtes je leur propose une annexe avec les informations. Mais on peut fonctionner différemment, les mettre en ligne pour qu'elles puissent être actualisées de manière plus régulière. Donc, c'est vraiment à géométrie variable.
On mettra le lien peut-être de ton post LinkedIn dans la description de cet épisode, si besoin.
Okay,
donc là, moi, ce que j'aime bien dans celui-là, enfin, je sais pas si c'est un tour de chauffe ou pas, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que bon, j'allais dire, il va rien vous arriver de grave si vous n'êtes pas dans les clous, parce que
non,
effectivement, faut quand même être de très 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 mauvaise volonté pour être mis en demeure pour un salarié et dire bon, et tu sais quoi, on s'en fout. Enfin, quand même, faut vraiment le vouloir. Mais ceci étant, c'est un très bon exemple de quelque chose que vous imaginiez entre guillemets carré, mais c'est des choses qui peuvent évoluer et où donc c'est assez possible de se retrouver hors des clous sans le vouloir en étant de très bonne volonté.
Exactement. Et j'ai pas tous les cas d'école possibles en tête, mais je pense, je sais pas, un salarié qui se trouve en arrêt maladie, qui n'a pas eu les infos sur la prévoyance à l'embauche et qui se retrouve à ne pas être indemnisé pendant plusieurs mois, pourrait tirer le fil de ce manquement et pourquoi pas obtenir une indemnisation. Enfin, voilà, c'est assez théorique pour le moment. Moi, j'ai pas encore de recul. Hein. Toutes ces obligations, elles datent de novembre, mais je pense qu'il vaut mieux être prudent, on ne sait jamais. Mais effectivement, pour l'instant, la sanction n'est pas très, pas très
probablement. Le deuxième dont tu voulais parler, c'est le droit à la déconnexion.
Ouais,
vaste sujet.
Exactement, vaste sujet. Et là encore, le droit à la déconnexion, alors tout le monde connaît, on en a entendu parler, mais en fait, c'est un droit obligatoire pour tous les salariés, hein, et c'est un droit effectif, et certes. Enfin, moi, j'ai pu constater que certains de mes clients n'en ont pas conscience. Ils pensent que ça s'applique à certains salariés, à ceux qui sont au forfait jour, à ceux qui sont au télétravail. En réalité, c'est pas le cas. Hein. Le droit à la déconnexion, ça existe depuis longtemps. En fait, c'est une notion qui a émergé à la fin des années 90 et qui avait été reconnue par les tribunaux. Elle est entrée dans le Code du travail assez récemment, en 2016. Voilà, c'est une obligation d'ordre général qui s'applique à tous les salariés, qu'ils soient en horaire fixe ou non. Et oui, pour donner un petit élément de définition quand même, pour que ce soit bien clair entre nous, le droit à la déconnexion, c'est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable ni connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. C'est ça, le droit à la déconnexion. Donc c'est assez clair, mais en pratique, en fait, c'est pas si évident que ça. Donc aujourd'hui,
peut-être, ouais. Excuse-moi, tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais parce que la mise en pratique de ce droit à la déconnexion et notamment le terme droit m'interpelle. Quand on dit le droit à la déconnexion, c'est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable ni connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. Aide-moi peut-être à le comprendre au regard du Code du travail. Est-ce que ça veut dire que un salarié ou une salariée peut demander à ne pas être contacté sur un outil ou refuser qu'on lui demande d'être joignable tout le temps. Enfin, comment ça s'applique très concrètement? Parce que j'imagine que c'est précis.
Alors, c'est précis, oui et non, parce qu'en fait, il y a une définition qui est dans le Code du travail. Après, les déclinaisons, en fait, elles se font un peu au coup par coup et c'est les tribunaux qui vont venir apporter des précisions.
D'accord.
Mais moi, je peux déjà te dire que non seulement un salarié a le droit de demander à ne pas être contacté, mais c'est surtout à l'employeur, en fait, d'organiser les modalités du droit à la déconnexion. Et concrètement, ça va être à l'employeur de prévoir des limites techniques pour que les salariés ne puissent pas ou presque aient le devoir d'éteindre certains outils, les téléphones et les accès aux messageries en dehors de certaines plages horaires. Et ça n'est pas que un droit reconnu aux salariés de demander à ne pas être joint. Hein. Ça va vraiment plus loin que ça. Après, tu as raison, si l'employeur ne respecte pas cette obligation, le salarié a tout à fait le droit de dire « En dehors de mes horaires de travail, je ne consulte pas ma messagerie, je n'y réponds pas. » Mais c'est vraiment à l'employeur en fait, d'organiser sa politique et de mettre en place des plages horaires, en fait. C'est, très concrètement, c'est ça le droit à la déconnexion.
Je continue à être le naïf curieux, parce que j'imagine que, pour le coup, tu as dû voir passer des cas autour du droit à la déconnexion. Ça doit être quelque chose qui est assez... Parce qu'on imagine très bien le phénomène terrible de l'employeur qui harcèle le salarié en dehors des heures de boulot, le week-end, le soir, tout ça. Il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse et je c'est pas un esprit de contradiction, hein, c'est j'essaye de comprendre la manière dont dans cette loi, ou en tout cas dans cette manière, dont ça c'est applicable, entre guillemets, un salarié ou une salariée qui aurait une tendance un peu workaholic sur les bords, qui serait connecté tout le temps sur ses mails, qui serait sur Slack et qui bosse le week-end, j'allais dire hors de la portée de l'employeur qu'il n'a pas vu, etc. Est-ce que l'employeur est en faute ou parce qu'il n'a pas créé un cadre pour empêcher le salarié de le faire ?
Alors, déjà, ce n'est pas du tout un cas théorique, hein, c'est un vrai problème qu'on rencontre.
Tu le connais, tu l'as déjà vu.
Je l'ai déjà vu. Et la réponse, en fait, est assez délicate. Alors déjà, ça dépend des modalités de durée du travail du salarié. Si c'est un salarié qui est censé faire 35 heures ou 37, 38, 39 heures avec des horaires de travail fixes et qu'il ne respecte pas ses horaires de travail, là, effectivement, c'est le problème de l'employeur qui doit lui faire respecter ses horaires. Après, il y a un cas qui est plus limite et qui est plus répandu aussi, ce sont les salariés qui sont au forfait jour. Donc les forfaits jour, ben, on n'a pas d'horaire de travail, en fait, on décompte le temps de travail uniquement à la journée, comme son nom l'indique, et ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment reprocher à un salarié d'être connecté le soir tard ou très tôt le matin. Et c'est là, effectivement, que la charte sur le droit à la déconnexion vient poser des règles. Mais dans ce cas-là aussi, l'employeur a des responsabilités et il doit faire en sorte que le salarié respecte ses temps de repos. Parce que dans tous les cas, en tout cas, il y a des horaires de travail, mais il y a surtout les temps de repos qui sont le socle minimal. C'est pour tout le monde pareil, il faut respecter 11 heures de repos quotidien. Donc, du soir, fin de la journée de travail, jusqu'au lendemain matin, et puis un repos hebdomadaire qui est en général de 24 heures plus 11 heures, 35 heures, ça peut être 48 heures selon les conventions collectives, mais ça, dans tous les cas, ça doit être respecté. Donc si un salarié travaille le dimanche et finalement on aboutit à un travail 7 jours sur 7 qui respecte pas son repos de 11 heures quotidiennes, c'est l'affaire de l'employeur. Donc il doit le rappeler à l'ordre, il doit mettre en place une politique sur le droit à la déconnexion. Et si vraiment tout ça n'aboutit pas, on pourrait imaginer, j'ai jamais eu à aller jusque-là moi avec mes clients, mais on pourrait imaginer que c'est une faute disciplinaire pour le salarié de pas respecter tous ces temps de repos obligatoires. Voilà, que l'employeur lui offre la possibilité de respecter, l'invite vivement à respecter, et à un moment donné, ça peut devenir le problème du salarié aussi.
Donc, ce que je comprends, c'est que cette charte de droit à la déconnexion et donc in extenso, également de temps de repos, ça fait partie d'une charte qui est pensée, écrite dans le cadre du Code du travail et de l'accord Syntex-Innov, en gros, qui est cohérent avec tout ça. Encore une fois, hein, je m'adresse au newbie et je parle comme un newbie. Et j'imagine, du coup, c'est dans le contrat de travail. C'est quelque chose qu'on ferait ce que tu disais avant.
Alors, tout est possible, en fait. Le droit du travail, aujourd'hui, c'est, dans certains cas, un accord d'entreprise, même qu'il faut négocier avec les représentants des salariés, de manière obligatoire. Dans les entreprises qui sont soumises à la NAO, la négociation annuelle obligatoire, donc en général, ce sont les boîtes d'une certaine taille, puisqu'elles ont des représentants syndicaux. Donc elles doivent ouvrir des négociations sur ce thème-là et conclure des accords. Le code du travail n'est pas hyper précis. Après, ça va dépendre des conventions collectives. La seule obligation, c'est d'ouvrir des négociations sur ce thème-là. Si les négociations n'aboutissent pas, il faudra dans ces entreprises-là, à minima, une charte sur le droit à la déconnexion. Dans les plus petites entreprises, en tout cas. Celles qui n'ont pas de représentants syndicaux et qui donc ne sont pas soumises à la NAO, il n'y a pas d'obligation d'avoir ni un accord ni une charte. Par exemple, dans les entreprises soumises à la convention collective Syntec, à ce jour, on n'a pas d'obligation d'avoir une charte pour tous les salariés, mais d'un jour à l'autre, ça peut l'être parce qu'on a un accord qui existe sur le sujet mais qui n'est pas encore applicable, qui va devenir applicable très prochainement, dans les mois à venir certainement, et qui prévoit pour le coup l'obligation de négocier un accord ou une charte et d'avoir quelque chose d'écrit. À défaut, effectivement, quand on n'est pas soumis à cette obligation-là, on peut le prévoir dans le contrat de travail de manière individuelle, mais on est quand même... Là, c'est les principes de base du droit du travail qui s'appliquent, c'est-à-dire égalité de traitement entre les salariés, non-discrimination, donc... Il faut quand même en fait avoir des règles un peu collectives et pas appliquer des règles différentes pour les salariés. On ne peut pas imposer des plages de déconnexion ou de connexion à certains et pas à d'autres. Il faut que tout ça, ce soit un petit peu coordonné, sinon là, on pourrait flirter avec l'inégalité de traitement, et là, c'est pas terrible non plus.
Ok, et pour le cas d'un employeur qui ne respecterait pas ce droit à la déconnexion, quelles sont les je te pose la question à chaque fois, évidemment, les sanctions auxquelles on s'expose?
Alors, il y en a plusieurs, en fait. Il y a soit l'obligation de ne pas avoir négocié d'accord quand on y est soumis. Là, bon, il n'y a pas de sanction. Enfin, en tout cas, de manière individuelle, il n'y a pas de sanction. En fait, un salarié à qui, par exemple, on a imposé, un employeur a imposé de travailler 6 ou 7 jours sur 7 sans temps de déconnexion, là, en fait, on va être sous l'angle du non-respect de la protection de la santé. En fait, parce que l'idée du droit à la déconnexion, en fait, c'est vraiment un corollaire du respect des temps de repos. Donc, on touche vraiment à la protection de la santé, et l'employeur, là aussi, basique du droit du travail, il a une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Et donc là, ça va se résoudre en dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié et sur des dossiers de burn-out, par exemple. Ça peut... Là, on a un vrai préjudice en termes de santé pour le salarié, et ça peut monter en termes de dommages-intérêts. Ça peut aussi être utilisé, on va dire, par exemple, dans le cadre d'une procédure harcèlement moral. Le fait de ne pas avoir respecté le droit à la déconnexion du salarié, clairement, ça peut être un élément constitutif avec d'autres éléments d'un harcèlement moral, de manière indirecte, mais en tout cas, ça peut être utilisé par un salarié comme ça.
Oui, alors ça, c'est, j'ai même pas peur de passer pour une andouille parce que c'est à ça que je sers encore une fois dans ce podcast. Ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que il faut pas nécessairement voir le droit à la déconnexion comme quelque chose de binaire et d'isolé. Faut voir ça comme un tout où on va peut-être remettre ça sous l'angle de l'entreprise et l'employeur ont un rôle de protection de la santé physique et mentale des salariés. Ça fait juste partie des choses qui sont prévues dans le code du travail, me semble-t-il, de différentes manières. Et un salarié qui estimerait que sa santé mentale ou physique a été abîmée par son employeur pourra monter donc différents éléments, dont un droit à la déconnexion qui n'a pas été respecté, par exemple. C'est ça ? Ok. Donc, par contre, ce qu'on peut retourner dans l'autre sens, c'est de dire, et ça sera très intéressant parce que je vais le tourner de manière volontairement cliché et peut-être exagérée, et tu me diras à quel point j'ai raison ou tort. Mais je fais exprès de forcer le trait parce que je sais qui nous écoute. Soyons très clairs, le milieu startup scale-up, qui est donc une grosse partie des gens qui écoutent ce podcast, que ce soit RH ou fondateur, fondatrice, il y a une culture du beaucoup travailler. Je dirais même, il y a une culture de la déconnexion qui est pas trop présente, hein, globalement. Et on peut le... comment dire ? On peut le camoufler derrière quelque chose qui est, bon, bah voilà, c'est une grande aventure humaine, on s'éclate, on va vite, on fait plein de trucs. Et je vais même aller plus loin, moi, dans ce que j'ai vu, pas sous un angle juridico-légal, mais sur un angle plutôt, ce que je vois dans les entreprises, c'est que quand il y a des cas de burn-out dans les startups et dans les scale-up, ou des personnes qui s'abîment, ou qui s'épuisent au travail, dans les salariés, je crois que dans beaucoup de cas de figure, j'oserais pas dire la majorité, mais en tout cas c'est une part non négligeable, c'est quelque chose qui se joue au niveau du salarié lui-même. C'est-à-dire, j'ai moins vu de fondateurs ou de managers qui épuisent leurs salariés que des salariés qui sont tellement surimpliqués dans l'entreprise qu'ils s'épuisent eux-mêmes. Et vu qu'il n'y a pas de garde-fou, globalement, en fait ils bossent tout le temps, ils sont très impliqués, et puis malheureusement ça se passe mal. Est-ce que dans ce cas-là, donc le cas workaholic, tout ce que tu veux, etc., un salarié peut se retourner derrière sur son employeur en disant « c'était votre responsabilité, ma protection de santé physique et mentale ».
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ce que je pensais.
Ouais, c'est un peu en connexion avec ce qu'on a dit précédemment. Dans la mesure où c'est à l'employeur d'apporter ce cadre, s'il n'a pas été vigilant vis-à-vis du salarié qui s'investit trop, il a sa part de responsabilité. Après, clairement, devant un tribunal, ça va être... va y avoir un combat autour de... qui a été le plus responsable. Mais clairement, c'est à l'employeur de garantir ça, et même d'organiser une visite avec la médecine du travail si ça s'impose, de, d'organiser des entretiens de suivi de la charge de travail avec le salarié. Parce que ça va aussi souvent, enfin, avec mes clients dans les startups, on fonctionne pas mal avec ce système de forfait jour pour les cadres, parce que ça donne de la souplesse. Et quand on met en place des forfaits jours, là, on est obligé d'avoir une charte sur le télétravail, ou en tout cas une politique interne sur la déconnexion, pardon. Et d'ailleurs, effectivement, avec le télétravail, ça va ensemble aussi. En cas de télétravail, on doit organiser le droit à la déconnexion. Donc, dans les startups, on a quand même beaucoup de cadres au forfait jour avec du télétravail. Donc, on est obligé d'organiser le droit à la déconnexion. Et c'est vrai que c'est aussi un terreau qui est plus favorable à l'absence de déconnexion, quoi. La start-up, la culture travailler beaucoup, et puis souvent en télétravail, donc, c'est à l'employeur de prendre ses responsabilités, mais moi je trouve que c'est de plus en plus assez bien reçu en fait par mes clients quand ils veulent par exemple mettre en place un forfait jour. Là, je ne leur laisse pas le choix. Je leur dis, voilà la charte du droit à la déconnexion qu'on va mettre en place. On peut discuter des détails, mais vous n'avez pas le choix. Et c'est assez bien reçu, en fait, je trouve, de plus en plus, parce qu'ils constatent ces problèmes-là. Et une charte sur le droit à la déconnexion, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très compliqué. Pour moi, le minimum, c'est des chartes des plages de déconnexion obligatoires. Donc souvent, c'est 20h ou 21h le soir, jusque 7h ou 8h le lendemain. Déjà, c'est pas mal. En dehors de ça, on programme les messageries. Et on invite les gens à ne pas répondre aux mails, aux messages, pendant ces plages horaires. Et ça, il me semble que c'est quand même assez bien reçu. Et on a quand même de plus en plus une culture de l'asynchrone. Il y a aussi les boîtes qui mettent en place la semaine de 4 jours. Donc, il faut gérer quand un salarié est absent parce que c'est son jour off. Et ben voilà, on programme, on décale, on est en différé. Donc, il y a quand même une culture, je trouve, de la déconnexion. Enfin, c'est mon sentiment personnel, qui se met progressivement en place.
Oui, absolument. Et ça rejoint... J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez envoyer à vos managers la version Do It Yourself de notre formation en management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co/bonus. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo, podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés. On n'aime pas vendre des secrets, on préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous voulez les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Ce qu'on se disait tout à l'heure, ça sera peut-être le seul truc sur lequel je voudrais souligner deux fois l'importance, c'est, et après je sais qu'on a encore deux points, donc on va les aborder, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point l'organisation du travail en entreprise ne fonctionne pas comme une bande de potes. Et que donc en fait il y a une responsabilité qui est asymétrique, donc même si quelque part vous êtes tenté de vous dire bon bah mon stagiaire Nicolas qui est à fond les ballons, je vais quand même pas l'empêcher de bosser le soir et le week-end s'il aime ça, et ça si un peu quand même en fait, parce que la vérité c'est que même si Nicolas il est à donf, pour prendre une métaphore qui est volontairement exagérée, si vous demandez à un enfant de 3 ans qu'est-ce qu'il veut manger tous les soirs, il va vous dire des coquillettes et du jambon. Et ça ne change rien en fait que vous avez une responsabilité de parent que d'essayer de varier un peu le truc. Donc évidemment, les salariés ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, mais l'organisation du travail dépend de l'employeur. Donc c'est à vous de faire en sorte que l'environnement de travail soit non risqué pour vos salariés. On pourrait forcer le trait en disant même si vous avez des ouvriers qui ont aucun problème à monter sur des grandes échelles qui tiennent sur rien en disant c'est bon, j'ai pas peur, bah s'ils tombent c'est de votre faute. Donc faut faire attention à ça. Numéro 3, ma chère Anne.
Et bien numéro 3, c'est en fait il y a un lien qu'on peut faire, c'est le contrôle de la durée du travail, parce que justement on était sur tous ces gens qui, ces salariés qui travaillent trop. Et en fait, certaines boîtes ont oublié qu'il y a quand même une durée légale qui est de 35 heures. Et c'est vrai qu'il y a un petit phénomène qui va un peu à contre-courant de ça, parce qu'on aime bien la flexibilité sur la durée du travail, on aime bien ne pas avoir d'horaire à respecter, sauf qu'à partir du moment où on a un contrat de travail, la règle par défaut, c'est 35 heures. Et surtout, l'employeur a une double obligation, c'est de contrôler le temps de travail et d'établir les documents de comptabilisation du temps de travail de ses salariés. Et c'est des documents qui doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail et du CSE, le comité social d'entreprise, s'il en existe un. Le comité social et économique, pardon, c'est l'ancien comité d'entreprise. Et l'employeur doit enregistrer la durée quotidienne du travail effectif et comptabiliser le total des heures de travail sur la semaine. En pratique, moi, j'ai beaucoup de clients qui ne le font pas et qui ne connaissent même pas forcément bien cette obligation. Alors, évidemment, ça va dépendre de la modalité qui est en place dans l'entreprise. Est-ce qu'on est sur 35 heures plus? Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est des forfaits jours pour les cadres? Souvent, il y a les deux modalités qui coexistent. Mais à moins que, et ça, c'est quand même de plus en plus rare, on ait un horaire collectif. Donc, c'est-à-dire comme à l'usine ou dans les bureaux, il y a un certain temps, c'était 9h-17h pour tout le monde. Les horaires étaient affichés dans l'entreprise et tout le monde travaillait dans les locaux de l'entreprise et il n'y avait pas de sujet. Donc, dans ce cas-là, si ça existe encore, il n'y a pas d'obligation de contrôler la durée du temps de travail. Mais en dehors de ce cas-là et des cas des forfaits jours où on n'est plus sur une durée à l'heure, l'employeur a l'obligation de contrôler cette durée du travail tous les jours et toutes les semaines. L'idée, en fait, c'est de pouvoir contrôler les heures sup sur la semaine et les temps de repos qui soient bien respectés sur la journée. Après, sur la forme, l'employeur est libre. Donc, ça peut être une bonne vieille badgeuse physique ou digitale. Ça fonctionne. Il y en a qui s'y remettent. C'est efficace, c'est mal accepté, ça je le sais que c'est difficile de faire rentrer la badgeuse en entreprise, mais ça peut bien fonctionner, ou ça peut être un système avec un système qui est plus déclaratif pour les salariés, où ils vont remplir un fichier toutes les semaines en déclarant leurs horaires de travail, enfin tous les jours et toutes les semaines. Là, le système est complètement libre. Et il faut savoir que là, pour le coup, le non-respect de cette obligation de comptabilisation du temps de travail quotidienne et hebdomadaire est assez lourdement sanctionné, en fait. Déjà, c'est du pénal, en fait, c'est des contraventions. Et ce qui peut coûter cher, en fait, c'est que la contravention, elle s'applique aux salariés concernés. Donc, si vous avez 92 salariés qui ne respectent pas, donc vous ne contrôlez pas le temps de travail, en fait, vous allez avoir autant d'amendes que vous avez de salariés concernés. Si vous avez un contrôle de l'inspection du travail, donc déjà, ça peut coûter assez cher. Et après, il y a le volet individuel, en fait. C'est encore un contentieux qui a beaucoup de succès devant les conseils de prud'hommes. C'est le contentieux des heures supplémentaires, en fait. S'il n'y a pas de contrôle du temps de travail, ben personne n'est en mesure de déterminer quels ont été les horaires effectifs et donc de déterminer s'il y a eu des heures supplémentaires ou non. Donc déjà, est-ce qu'elles sont payées, est-ce qu'elles ne sont pas payées et combien on aurait dû les payer. Donc il y a beaucoup de contentieux encore où certains salariés viennent demander énormément d'heures supplémentaires parce que ça peut aller très vite. Quelqu'un qui a 35 heures, qui estime qu'il a travaillé 45 heures par semaine pendant 3 ans, parce que c'est le délai de prescription, 3 ans, il peut venir réclamer 10 heures supplémentaires majorées sur 3 ans. Et ça peut, en fonction du taux horaire, ça peut vite coûter très cher à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un risque. Et je le dis aussi, je ne veux pas trop non plus inquiéter tes auditeurs, mais en théorie, ne pas faire apparaître toutes les heures supplémentaires sur un bulletin de paye, ça peut être un délit de travail dissimulé. Alors, c'est pas forcément à ça qu'on pense quand on entend travail dissimulé, mais le fait de dissimuler des heures supplémentaires de travail, de ne pas les faire apparaître sur un bulletin de paye, bon, à partir du moment où c'est intentionnel. Une simple négligence, c'est pas le cas, mais c'est du travail dissimulé. Et là, c'est encore une condamnation pénale et la condamnation peut être assez élevée puisqu'elle est de l'équivalent de 6 mois de salaire du salarié.
Alors, une nouvelle fois, on va reprendre les bases pour moi, hein, au fond de la classe. Vis ma vie de travailleur, donc j'ai fait des études à l'université, donc j'ai 5 années dans fac de psycho, et je crois que j'ai toujours été 4 depuis que je suis salarié, et puis après, là, en montant, il y a Niro. Donc, ça veut dire que J'ai bien en tête que France égale 35 heures, quelque part, mais j'en ai jamais vu la couleur. Enfin, je dis avant, quand je travaillais, pendant que j'étais étudiant. Est-ce que tu peux, en version très rapide, me dire, et j'espère que ça servira aux autres, dans la réalité des contrats de travail, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce que la base de travail de n'importe quel travailleur travailleuse, c'est 35 heures et il y a des exceptions ? Est-ce que ça veut dire que le forfait jour ne s'applique qu'au cadre ? Dit autrement, c'est important, quand tu parles du contrôle de la durée du temps de travail, de comprendre dans l'environnement dans lequel on se trouve, qui est concerné par un temps de travail qui est non flexible et qui est concerné, enfin qui est sur un temps de travail qui est au jour et pas autrement. Enfin, pour les noms, je les connais, la manière dont ça s'applique concrètement, c'est très peu clair dans ma tête.
Ouais, la règle de base, c'est ça, c'est 35 heures. Pour tous les salariés, c'est une règle par défaut. Donc s'il n'y a pas de règle spécifique, voilà, tous les salariés, cadres et non cadres, sont censés travailler 35 heures. Après, il y a là, le droit du travail nous offre un panel d'options et de flexibilité. On a la possibilité de faire des accords d'entreprise, d'annualisation du temps de travail, de modulation. Donc, voilà, il faudrait un podcast entier sur le sujet. Mais là, il faut se reporter à son contrat de travail. On peut avoir un petit peu plus que 35 heures. En général, on peut aller jusqu'à 39 heures. Ça veut dire que c'est prévu dans le contrat et on a des heures sup structurelles qui vont nous être payées chaque mois. Mais toutes les semaines, on fait 39 heures. Et la seule exception au temps de travail décompté à l'heure, 35, 36, 38, 39, c'est le forfait jour. Le forfait jour, c'est effectivement réservé en général. Je te dis en général parce que, en fait, là, c'est le code du travail fixe un cadre et renvoie soit aux conventions collectives, soit aux accords d'entreprise pour venir donner le détail. La convention collective Syntec, elle a toute une partie qui est consacrée au forfait jour. Et par exemple, elle prévoit que ça n'est accessible, cette convention de forfait jour, qu'à certains cadres d'un certain niveau, à partir d'un niveau de classification assez élevé, donc les cadres d'un certain niveau, à partir d'un certain niveau de salaire, qui fait partie quand même des plus hauts niveaux de salaire, et surtout à un certain niveau d'autonomie. Donc, clairement, c'est censé s'adresser à des salariés dont l'activité fait qu'ils ne peuvent pas avoir des horaires fixes. Mmh. Donc, qui managent une équipe, où il y a une forte dimension commerciale avec des rendez-vous hyper variables, une activité fluctuante en fonction de l'activité de l'entreprise, on va dire, en général. Le mot à retenir, c'est autonomie, en fait. C'est le forfait jour, c'est pour les cadres autonomes d'un certain niveau. Donc, et il faut se reporter soit à la convention collective, soit aux accords d'entreprise pour savoir dans quelles conditions on peut le mettre en place. C'est hyper encadré, le forfait jour, parce que c'est vraiment un système d'exception où on n'est plus aux 35 heures, on est sur un système complètement différent, où on compte les jours sur l'année et pas les heures sur la journée.
Ok, très clair. Et enfin, le fonctionnement des congés payés,
oui.
Numéro 4.
Oui, c'est le dernier point. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'en start-up, on considère qu'on a 25 jours de congés payés. Parfois, on a aussi des jours de repos, hein, ce qu'on appelle les RTT. On fait, on regroupe tout ça et puis on les pose un peu au gré du bon vouloir, souvent des salariés. Hein. Pour le coup, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais en fait, il y a quand même des règles de base et des règles pour poser les congés payés. Et là, si c'est pas respecté, c'est pareil, ça peut coûter un petit peu cher. Là, j'ai envie de dire, c'est moins grave que la durée du travail, parce que souvent, ça se passe en bonne intelligence, en fait, avec les salariés. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir en tête le fait que, déjà, ça, en général, c'est su, il y a une période de référence pour l'acquisition des congés payés, qui est du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. Et après, il y a une période légale de prise des congés payés qui est différente, qui est du 1er mai au 31 octobre. On est censé, pendant cette période-là, du 1er mai au 31 octobre, prendre ce qu'on appelle un congé principal, c'est-à-dire que concrètement, on doit prendre 12 jours ouvrables minimum en continu, ça veut dire qu'on doit prendre 15 jours. Bon, l'idée, c'est de prendre des congés d'été, 15 jours en continu sur la période estivale. Ça, déjà, c'est pas toujours le cas, puisque, évidemment, ça correspond au code du travail, c'est des règles qui sont anciennes, où l'idée, c'était de sacraliser le congé estival. C'est peut-être plus, ça correspond peut-être plus à la manière dont on prend des congés aujourd'hui, mais la règle est encore là. Donc, Là, si votre salarié ne prend pas ses 15 jours en été, enfin en tout cas du 1er mai au 31 octobre, on n'est pas dans les clous de la règle principale, de la règle du congé principal. Et ensuite, en dehors de ce congé principal, donc pour caricaturer ces 15 jours, il nous reste 3 semaines de congé sur l'année. Là, on a la 3e et la 4e semaine, elles peuvent être prises soit de manière fractionnée, soit en continu, mais elles sont censées être prise encore une fois dans cette même période du 1er mai au 31 octobre. Et si ce n'est pas le cas, c'est un peu technique, mais voilà, c'est quand même bien de le savoir, si ces 2 semaines complémentaires ne sont pas prises pendant la période légale, eh bien le salarié a droit à des congés supplémentaires, c'est ce qu'on appelle les congés de fractionnement. Donc s'il prend des congés en hiver, il a la possibilité, en fonction du nombre de jours de congés qu'il prend, d'avoir un ou 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement. J'ai plein de clients qui n'accordent pas les congés supplémentaires de fractionnement et qui ne suivent pas, ils suivent la prise des congés avec le compteur annuel, mais pas du tout par rapport à la période de prise des congés payés. Donc voilà, faudrait peut-être regarder d'un petit peu plus près la question des jours de fractionnement. La convention collective Syntec, elle est un petit peu plus avantageuse que le code du travail sur les congés de fractionnement. Il y a plein de conventions collectives qui prévoient des règles spécifiques sur le sujet, donc là aussi il faut se reporter à sa convention. Et voilà, pour les 4 semaines du congé principal, la 5e semaine de congé payé, elle, c'est complètement libre. Elle n'entre pas dans le congé principal et elle peut être prise librement toute l'année. Ça ne donne pas lieu à un congé supplémentaire. Donc, il faut être assez vigilant sur ce sujet-là. En théorie, ne pas respecter les règles sur la prise des congés payés, encore une fois, c'est pénal, ça peut être une amende, et un salarié pourrait réclamer des dommages d'intérêt. Là, je disais que c'était assez théorique, puisque finalement, en général, c'est à la demande du salarié quand les congés sont pris de manière très fractionnée. C'est ça que je vois beaucoup, en fait. C'est que les salariés ne prennent pas forcément 15 jours d'affilée, ça va être des petits congés, des week-ends prolongés toute l'année, mais là, on va dire que la tendance n'est plus à prendre 3 semaines de congé en été de manière suivie. Et ça, il faut être vigilant. Alors, ce qui peut se faire, c'est de faire un accord d'entreprise où on va aménager une partie de ces règles-là pour coller au mieux avec l'activité, avec les pratiques.
Ok. Alors celui-là, je vous mets au défi de le connaître avant cet épisode du podcast. Le côté des périodes d'acquisition de congés, puis de prise de congés payés, puis le fractionnement, là je l'avais pas. Hein. Ouais, je l'avais pas du tout.
Alors souvent on sait quand même que les congés ça commence le 1er juin, mais alors après pour les poser, non, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu. Et puis c'est pas très pratique, enfin c'est pas forcément très pratique ni pour les RH de contrôler si tout a été respecté, ni pour les salariés. Donc ça, je pense que c'est une règle qui sera certainement amenée à évoluer dans le futur. Mais en attendant, il faut quand même s'en accommoder et essayer de l'aménager en interne, voilà. Mais en théorie, là c'est pareil, un salarié, reprenons notre salarié workaholic qui fait un burn-out et en fait. Il n'a pas pris ses congés dans ces conditions-là. Lui, il a pris une partie de ses congés, mais par tranche de 1 jour ou 2 jours, en se faisant que des week-ends prolongés sur l'année, il pourrait considérer que son employeur ne lui a pas accordé son droit à repos de 15 jours d'affilée et que c'est aussi un élément constitutif qui l'a mené au burn-out. Et voilà, et non-respect des règles de la protection de la santé mentale du salarié. Ça pourrait être envisagé comme ça.
Et c'est probablement, je pense, une bonne manière d'atterrir. Je te laisserai corriger hein, si c'est pas juste ou en tout cas pas à ta pensée hein, ce que je vais dire, mais le droit du travail et les différentes règles entre guillemets qui existent sont pas complètement absurdes. Elle n'existe pas de manière arbitraire, juste en étant des règles de Monopoly qu'il faut suivre, qu'elles nous plaisent ou pas. Et donc, au-delà de ce qui toi-même te faisait sourire en disant « attention, c'est un peu technique sur le fonctionnement des congés payés », je pense qu'une des parties les plus importantes à garder en tête, c'est que les sous-jacents de ces règles, je pense que la plupart des gens en ont conscience. On a conscience du fait que c'est pas une très bonne idée que les gens prennent pas leurs congés payés, qu'ils aient un temps de travail qui explose, qu'ils ne puissent pas déconnecter et qu'on leur file des informations à l'embauche qui sont parcellaires, voire complètement floues. Ça, on le sait, je pense qu'il faut le savoir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est déjà la réalité de comment la loi est tournée autour de ça, et surtout que dans un cas où vous vous diriez « oui, bon, ça va, on le prend à la légère, de toute façon, c'est le milieu start-up, c'est artisanal, on le sait », c'est tout à fait possible pour un salarié qui fasse les frais de cette négligence de se retourner contre vous, et il y a des bonnes chances qu'il gagne en fait en réalité. Parce que précisément c'est votre travail de créer un cadre dans lequel vos salariés sont soient bien et épanouis, et en tout cas pas en danger, quoi.
Oui, complètement. T'as,
et toi,
t'as
tu
raison,
vois tous les jours, pour le coup.
Ah oui, oui. L'idée, c'est vrai que c'est technique, mais l'idée sous-jacente, tu as raison, c'est d'accorder un droit de repos aux salariés. Et l'idée, on revient sur le droit à la déconnexion, c'est que déconnecter pendant 15 jours d'affilée, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour mieux travailler ensuite, ou pas, mais en tout cas, en tout cas, c'est un élément de la protection de la santé des salariés. Donc, ça n'a rien d'idiot, hein. C'est du bon sens. Mais ça mérite peut-être quand même quelques aménagements dans le milieu start-up par exemple, mais dans plein de boîtes où aujourd'hui on prend quand même des congés de manière un petit peu différente. Et puis on a aussi les jours de repos. Quand on est en forfait jour par exemple, l'idée du forfait jour c'est d'avoir un décompte du temps de travail sur la journée, mais la contrepartie pour le salarié ça devait avoir des jours de repos en plus, les fameux RTT. Voilà, quand on dit en 2024, il y a 9 RTT pour les gens qui sont au forfait jour, en général, ça parle un peu plus. Donc, on va avoir 9 RTT plus les 25 jours de congés payés. Alors, techniquement, et juridiquement, c'est pas du tout la même chose, mais je comprends que pour un salarié, il fait un cumul des deux et puis il va piocher dedans quand il en a besoin. Mais techniquement, c'est pas la même chose. Et les règles pour les prendre et les poser sont pas les mêmes. Les RTT, c'est sur l'année civile. Les congés, c'est sur une année, cette période de référence qui est un peu décalée. C'est pas très pratique, il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, on peut aussi aligner les deux périodes en faisant un accord d'entreprise sur le sujet. On peut simplifier plein de choses. Mais il faut passer par l'accord d'entreprise.
Et on va passer tranquillement à la fin de l'interview, mais je résiste pas à te partager, partager une anecdote potentiellement à affiner, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, mais que j'ai pas vérifié sur les congés payés. Vous le savez sûrement si vous écoutez de temps en temps ce podcast, mais j'habite en Suisse, si je suis français de nationalité. Et figure-toi, je ne sais pas si tu sais ça, Anne, que en Suisse, il y a un référendum qui tourne chaque année depuis longtemps maintenant, qui vise à poser la question aux citoyens suisses, citoyennes suisses, de est-ce qu'ils veulent que le nombre de congés payés légal passe de 4 semaines à 5 semaines.
Oui.
Chaque année, on dit non.
Ah.
Ça, c'est le modèle suisse où il y a quelque chose qui fonctionne, on n'y touche pas. on ne fait pas évoluer les choses. Il y a une évolution du pays qui est très, 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 très lente, parce que les citoyens considèrent que si ça fonctionne, on ne répare pas une machine qui n'est pas cassée.
Pourquoi pas ? Ouais, la tendance n'est pas du tout la même qu'en France, où on voit plein de startups qui appliquent les congés illimités. Donc, on est sur une autre dynamique.
Haute culture. Ouais. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Anne, merci pour ces quatre points. Où est-ce qu'on te retrouve ?
Eh ben, on me retrouve sur LinkedIn. Je poste assez régulièrement sur le droit du travail et justement le droit du travail ciblé Syntex-Innov. Je décortique un petit peu la convention collective. Et puis, par mail, sinon, à mon adresse anne@cohenavocate.fr.
Ouais. Qu'on mettra dans la description, bien évidemment. Est-ce que tu as une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices, des personnes à suivre sur LinkedIn, par exemple ?
Oui, alors ben justement pour rester sur ce thème-là, moi j'ai deux personnes à recommander. C'est Jean-Julien Jarry qui est un avocat et Cécile Desroignes qui s'appelle Cécile de la RH sur LinkedIn. Et en fait, eux proposent pas mal de visuels, d'infographies sur le droit du travail et décortiquent aussi les règles du droit du travail de manière visuelle. Je trouve ça vraiment pas mal, notamment Jean-Julien Jarry en a fait une récemment sur les congés payés. Qui explique cette règle du fractionnement, etc., de manière visuelle, c'est pas mal pour la garder en tête. Donc, pour la simplification et la vulgarisation du droit du travail, je les recommande tous les deux sur LinkedIn.
Mais écoute, c'est parfait. Et enfin, tu connais notre tradition de fin d'épisode. Qui est-ce que tu nommes pour un prochain épisode du podcast ?
Je te propose Meryl Sibra, qui est VP People chez Wiglot, la startup qui fait de la traduction de sites web, parce que c'est une petite boîte et elle est super dynamique dans sa politique RH. Ils ont mis en place la semaine de 4 jours, tout un pack d'avantages salariés, congés parentalité, congés menstruels, etc. Et ouais, ils sont assez avant-gardistes sur tous les sujets juridiques RH. Et en fait, ils profitent de la petite taille de la structure qui est assez souple pour mettre en place plein de choses. Donc, je pense qu'elle peut apporter un point de vue assez intéressant sur tous ces sujets-là.
Eh bien, écoute, Meryl, tu es évidemment la bienvenue sur ce podcast. Je pense qu'on peut dire que Anne te laisse le micro et le casque en partant et que j'aurai grand plaisir à parler avec toi de tous ces sujets si tu le souhaites. En tout cas, tu es la bienvenue ici. Anne, un grand merci pour ton temps et pour ces sujets qui sont, j'imagine, sous le radar de beaucoup des personnes qui nous écoutent. Et puis, je te dis à la prochaine.
Ouais, merci Alexis. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation en management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co/bonus. Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email. Profitez bien de cette formation gratuite, envoyez-la à tous vos managers et à mercredi prochain pour un prochain épisode.